Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, le débat consacré aujourd'hui à la Birmanie où se tiennent ce dimanche 7 novembre des élections législatives sous le contrôle de la junte militaire au pouvoir. Regard sur la Birmanie aujourd'hui avec nos invités Sophie Boisseau-Durocher, chercheure à Asia Centre, Isabelle Dubuis, coordinatrice de l'association Info Birmanie et Maxime Boutry, ethnologue, chercheur associé à l'IRASEC. Isabelle Dubuis, la question des minorités ethniques est une question essentielle quand on parle de la Birmanie.
Oui, tout à fait, puisque la question, la gestion de ces minorités, donc un tiers de la population qui sont réparties sur à peu près 50-60% du territoire, n'a jamais été réglée depuis l'indépendance du pays en 1948. Le père de la patrie, Aung San, avait bien prévu une grande discussion politique avec l'ensemble des représentants ethniques. Malheureusement, son assassinat n'a pas permis l'aboutissement de ces discussions et depuis cette date-là, jamais les demandes des minorités ethniques n'ont été prises en compte par le régime central birman. Donc il y a aujourd'hui des mouvements insurrectionnels donc, qui existent depuis très longtemps, notamment cette guérilla Karen, qu'on dit être le mouvement de guérilla le plus vieux au monde. Ces mouvements insurrectionnels qui représentent les minorités ethniques existent pour trois raisons. Pour une demande d'autonomie politique, d'exister dans le jeu politique, également une reconnaissance de leurs droits culturels, et enfin, la gestion du territoire, la possibilité de peser sur les affaires locales et donc de disposer des ressources qui sont les leurs au niveau local ou régional. La junte avait partiellement réglé la question au début des années 90 en arrachant des accords de cessez-le-feu avec une quinzaine de ces groupes. Depuis 20 ans, on était dans une situation de paix froide entre ces groupes. Certains avaient gagné une certaine autonomie. Pour la plupart, c'était quand même des accords très opportunistes ou pour des questions de business, sachant que ces groupes sont basés le long de la frontière. La junte avait aussi besoin de ces intermédiaires, notamment le long de la frontière chinoise, pour arriver à gérer le commerce transfrontalier. Et la Chine s'appuie également sur ces groupes pour accéder aux ressources énergétiques et naturelles en Birmanie. Néanmoins, ces accords de cessez-le-feu sont en train d'être dénoncés, là encore, à cause de la nouvelle constitution qui entrera en vigueur au lendemain du scrutin de demain. Et aujourd'hui, nous ne savons pas trop comment la junte va gérer la question des minorités ethniques. Donc c'est vrai que cette question électorale a fait ressurgir d'autres problèmes beaucoup plus profonds et anciens. Et si on s'attendait évidemment à une confrontation assez brutale entre les forces démocratiques et le pouvoir militaire, la question des minorités ethniques n'a jamais été vraiment prise en compte. Et aujourd'hui, la junte est face à une situation très, très périlleuse.
Maxime Boutry, vous partagez ce que vient de dire Isabelle Dubuis sur les minorités ethniques birmanes?
Pas tout à fait. En fait, je dirais il est important de recontextualiser un peu historiquement ce qu'est la Birmanie. C'est-à-dire, avant d'être une colonie anglaise, le pouvoir birman était basé sur des monarchies qui ont eu leur emprise sur le centre du pays et plus ou moins loin sur ce qui est actuellement le territoire de l'Union du Myanmar et parfois jusqu'en Thaïlande. Mais il s'agissait donc d'une monarchie qui avait des relations, soit d'allégeance, soit des relations conflictuelles avec les États voisins, par exemple les États Shan, etc. Mais de fait, après l'indépendance en 1948, le gouvernement birman a hérité des frontières telles qu'elles ont été dessinées par les Anglais, et donc d'un territoire sur lequel il devait soudainement devenir souverain, un territoire et ses ressources. Forcément, ça a nécessité dès le début l'instauration d'un pouvoir fort, puisque il est vrai qu'une grande partie des ressources de la Birmanie, en tout cas ce qui concerne les ressources minières et ligneuses, sont situées dans les régions à dominante ethnique, que ce soit Shan, Kachin, Karen, etc. Ce qui crée forcément des enjeux politiques et bien sûr dans le contexte de la junte birmane qui tient à garder la mainmise le plus possible sur ses ressources. Ceci dit, dans les changements qu'on peut espérer suite à cette élection, allant de pair avec le processus électoral, il y a eu depuis l'année dernière, je crois, et principalement cette année, un grand mouvement de privatisation des secteurs industriels birmans. Privatisation qui, certes, sert à les donner à des disons, à des personnes qui font partie du cercle des hommes au pouvoir. Mais on peut espérer quand même qu'à terme, de la même façon qu'en ayant des parlements, on peut espérer qu'à terme la privatisation des secteurs économiques birmans puisse apporter des changements dans la gestion des ressources du pays et de son développement.
Alors, quand on parle de la richesse de la Birmanie en hydrocarbures et en gaz, la question de la Chine, Sophie Boisseau-Durocher, je me tourne vers vous, est une question essentielle. On parle de la Chine comme d'un danger potentiel pour la Birmanie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Alors, d'un danger potentiel, non. On parlerait éventuellement d'une domination potentielle. La Chine, effectivement, ces 15 dernières années, s'est énormément rapprochée de la Birmanie. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'était un État très incarné, donc les quelques décideurs sont vite repérés et facilement remerciés. Hein. Les choses sont plus faciles, les circuits d'argent sont plus faciles. Et puis aussi parce que la Birmanie recèle des richesses qui sont essentielles au développement économique de la Chine. Et enfin, parce que la Birmanie représente un enjeu géostratégique de premier ordre. Il suffit de regarder une carte, vous l'avez dit vous-même, c'est vraiment le pays de transition entre le continent indien et l'Asie du Sud-Est. Et la Birmanie dispose donc de côtes à la fois sur le golfe du Bengale et à l'entrée du détroit de Malacca. Donc c'est évidemment pour la Chine un partenaire de premier ordre qu'elle s'est appliquée à soigner depuis plus de 15 ans. Alors maintenant, est-ce que la Birmanie, comme certains experts l'annoncent, est tombée dans l'escarcelle chinoise ? Ça, je ne crois pas. Je crois que la Birmanie, d'ailleurs, depuis toujours, hein, avant même la junte actuelle, faisait balancer sa diplomatie entre différents partenaires. Dans les cartes que la Birmanie manipule, il y a la Chine, mais il y a également l'Inde, et puis il y a l'ASEAN, et il y a aussi la Russie. Ces derniers mois, c'est avec la Russie que des contrats d'armement ont été passés, en dépit de visites à très haut niveau des représentants chinois. Donc, si vous voulez, il y a certainement un mouvement privilégié, entretenu par la Chine. Pour autant, ça ne signifie pas que la Birmanie s'aligne automatiquement sur les positions chinoises.
Quelques mots sur l'appartenance de la Birmanie à l'ASEAN. Est-ce que c'est là une conséquence directe de cette... Alors, vous ne parlez pas de dépendance vis-à-vis de la Chine, mais en tout cas d'influence très forte.
Majeure, oui, une influence majeure, certainement. Pour l'ASEAN, c'est un autre sujet, si vous voulez. L'ASEAN a cherché à réunir la grande famille d'Asie du Sud-Est en 1997, hein, en intégrant à la fois le Myanmar, mais également le Cambodge, le Laos et le Vietnam, qui étaient rentrés en 1995. Finalement, le Cambodge est rentré en 1999. Mais il était important que toute la famille Asie du Sud-Est soit réunie. Et surtout, l'ASEAN, à ce moment-là, fait le pari de l'engagement constructif pour amener progressivement l'agenda a changé. L'ASEAN s'est véritablement impliquée, c'est-à-dire qu'elle a véritablement pris des décisions pour essayer d'amener progressivement la junte au changement. Bon, le résultat est très mitigé. Néanmoins, ce qu'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, le rôle de double fonction que l'armée défend, c'est-à-dire une fonction à la fois dans la sécurité, mais également dans le développement, est un leitmotiv qui a été mis en œuvre en Indonésie dès les années 70. Et il y a des liens très étroits entre l'armée birmane et l'armée indonésienne, que le mouvement de privatisation dont parlait Maxime Boutry a été opéré avec l'aide de conseillers singapouriens. C'est près de 5000 bureaucrates birmans sont formés tous les ans à Singapour. Donc ce processus de libéralisation économique peut également se poursuivre parce qu'il est conseillé par des pays qui sont beaucoup plus en avance. La Thaïlande également, qui accueille énormément de réfugiés birmans d'une part et d'autre part d'ONG dédiées à la question birmane, fait pression sur Rangoon et Naypyidaw, la nouvelle capitale, pour faire bouger, alors là aussi toujours à la marge, les choses. Alors, je suis d'accord que les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que l'ASEAN espérait. Et d'ailleurs, quand vous discutez avec les dirigeants de l'ASEAN, ils sont exaspérés par le comportement de la junte. Néanmoins, on revient toujours à la question essentielle. À quoi cela servirait-il d'expulser aujourd'hui la Birmanie de l'ASEAN ? Est-ce que ça serait plus productif ? certainement pas. Et il ne faut pas non plus donc faire le jeu de la junte là en leur donnant des arguments pour s'ostraciser, si vous voulez, plus en avant. Parce qu'il va y avoir des conséquences sur les équilibres régionaux que les partenaires de la région vont devoir supporter. Un seul exemple, le cas des musulmans, des Rohingyas de Birmanie, qui s'exilent ou qui sont exilés vers la Malaisie ou vers l'Indonésie et qui posent effectivement des problèmes d'intégration. Donc, si vous voulez, s'il y avait des désordres généraux en Birmanie, l'ASEAN serait certainement très affectée et les partenaires ne veulent pas porter, alors qu'ils sont eux-mêmes dans des situations qui restent quand même fragiles, ne veulent pas porter ce fardeau supplémentaire. Mais par ailleurs, ne pas oublier non plus l'argument économique qui vaut pour la Chine mais qui vaut pour l'ASEAN. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, 70% de la consommation électrique en Thaïlande est assurée par la Birmanie. Évidemment, le discours du Premier ministre Abhisit à Bangkok est beaucoup plus nuancé que celui qu'on pouvait attendre quand on connaît ces chiffres.
Mais alors, pour poursuivre avec tout ce que vous venez de dire, Sophie Boisseau-Durocher, la Birmanie et la Thaïlande, on l'a dit, sont deux pays voisins. Alors, l'un fait partie des pays les moins avancés, c'est la Birmanie. L'autre a complètement décollé. J'aimerais comprendre pourquoi la Birmanie a tant de mal aujourd'hui à se mettre en mouvement sur le plan économique.
D'abord, je crois qu'il y a effectivement, et ça Maxime Boutry pourra en parler plus longtemps que moi, il y a effectivement la question de cet équilibre politique entre le centre et les périphéries qui n'a pas été trouvé. Alors effectivement, Aung San avait parlé d'une grande consultation nationale, mais rien ne dit aujourd'hui que cette consultation nationale aurait réglé le problème. Il y a un véritable problème de relations centre-périphérie qui n'est toujours pas traité, et puis que cette Birmanie qui est très bien doté en ressources naturelles, représente un enjeu à la fois pour l'élite en place, la junte, mais également pour ses voisins.
Maxime
Et
Boutry.
Donc, qui explique, si vous voulez, vu l'importance des enjeux, qu'une solution ne puisse pas être trouvée facilement. Et on le voit bien, la junte elle-même fait en permanence, si vous voulez, jouer des équilibres qui sont très sensibles. On en a parlé entre l'Inde et la Chine. Pour la gestion, par exemple, ou l'exploitation des matières premières, ce sont des cas d'école. C'est-à-dire que les Indiens sont intéressés par la recherche d'hydrocarbures. Ils investissent dans cette recherche. Et puis, quand ils ont un peu trouvé, les Chinois mettent une enveloppe un peu plus élevée. Les Indiens reviennent à la charge. Et donc, il y a une surenchère qui, évidemment, sert d'abord les porte-monnaies de la junte. Donc ça, c'est un premier point. Le second point, c'est qu'il y a un enjeu d'équilibre régional qui est de plus en plus difficile à contrôler pour les partenaires de l'ASEAN, parce que de trop grands désordres seraient certainement aujourd'hui constitutifs de déséquilibres régionaux. Et puis, il y a une troisième question qui n'a pas encore été abordée et qui va être le vrai sujet de la sécurité en Asie du Sud-Est dans les 10 années à venir, c'est le sujet de la prolifération nucléaire. Il semblerait que la junte souhaite disposer d'une arme nucléaire et ça, évidemment, ça pose un vrai problème à l'ensemble de ses voisins. Il s'agit donc, si vous voulez, d'essayer d'amener quand même la junte à un raisonnement à peu près rationnel.
Alors, on n'a malheureusement pas le temps de poursuivre sur cette question du nucléaire. Un dossier pour terminer cette émission, c'est celui des sanctions imposées par les États-Unis et plus généralement les Occidentaux au lendemain des élections de 1990. Ce qu'on peut constater, c'est que les Occidentaux ne sont pas parvenus à convaincre l'Asie de les suivre sur ces sanctions. Est-ce qu'on va, d'après vous, vers un assouplissement, un changement d'attitude de la part des États-Unis ?
Si je dois répondre, je dirais oui, évidemment. Et d'ailleurs, ce changement, on le voit, il est en marche. Depuis septembre 2009, l'administration Obama a tendu la main à la junte, alors avec certains critères, mais néanmoins a reconnu que la question des sanctions avait été contre-productive. Hein. Il n'y a que l'Europe aujourd'hui pour maintenir les sanctions. Le Parlement européen a renouvelé pour un an, en avril 2010, les sanctions, sans se poser peut-être la question de savoir s'il n'y avait pas une autre méthode pour essayer de faire pression sur la junte. Parce que ce qu'il faut quand même reconnaître aujourd'hui, c'est que la politique des sanctions n'a pas fonctionné. La Birmanie se développe, ou en tout cas les poches de la junte s'enrichissent touristes régulièrement, parce que si les Occidentaux ne veulent pas aller exploiter les richesses, d'autres le font et ils se disputent même pour obtenir les concessions.
Isabelle Dupuis, vous ne partagez pas ce que vient de dire Sophie Boisseau-Durocher quant à la contre-productivité des sanctions?
Je pense que les sanctions ne sont pas efficaces aujourd'hui. Ça, c'est un point sur lequel tout le monde est d'accord. Si elles ne le sont pas, c'est que l'Europe, un peu moins les États-Unis, mais surtout l'Europe, ne s'est jamais donné les moyens politiques d'arriver à des sanctions efficaces. Je pense que le grand échec politique de l'Europe, c'est d'avoir cru que des sanctions seules suffisaient et que de mettre en place des sanctions économiques et politiques était une ligne politique et diplomatique en soi. Là où l'administration Obama a opéré un changement qui est le bienvenu, c'est qu'en tout en maintenant les sanctions et en expliquant clairement à la junte que c'est au pouvoir birman de faire le premier geste et non pas à nous de tendre la main vers eux, de rétablir un dialogue à haut niveau, et c'est ce qui est nécessaire. En parallèle de ces sanctions, les sanctions sont simplement un outil comme on en utilise divers dans le jeu diplomatique. Aujourd'hui, l'administration Obama est quand même largement revenue sur l'enthousiasme que l'on avait pu constater à l'été 2009, a clairement annoncé que la tentative de dialogue avait échoué. Et aujourd'hui, dans les cercles à Washington, on parle beaucoup plus d'un renforcement des sanctions financières et des sanctions économiques, ainsi qu'une initiative de monter une commission d'enquête pour les crimes contre l'humanité, qui est donc un acte assez dur et frontal vis-à-vis de la junte, que d'un assouplissement des sanctions. Donc, les États-Unis n'ont pas du tout reconnu que les sanctions ne marchaient pas. Ils ont reconnu que les sanctions seules ne suffisent pas à gérer le pouvoir politique birman.
Très rapidement, Sophie Boisseau-Durocher, Maxime Boutry.
Oui, la vraie question pour les États-Unis aujourd'hui, c'est le risque nucléaire en Birmanie et donc savoir comment gérer ce risque de prolifération nucléaire.
Maxime Boutry.
Juste un dernier mot sur les sanctions. Non seulement on sait que ça ne fonctionne pas, mais en plus c'est totalement contre-productif puisque les seuls sanctionnés finalement sont les moyens ou petits industriels birmans. Or ceux qui ont le potentiel pour négocier avec les puissances voisines, que ce soit la Thaïlande, Singapour ou la Chine, ont totalement de quoi écouler leurs produits, et ce, jusque aux États-Unis et en Europe, à travers ces pays qui servent de plateforme.
C'est la fin de Géopolitique, le débat. Merci à nos invités, Sophie Boisseau-Durocher, chercheur à Asia Centre, Maxime Boutry, ethnologue, chercheur associé à l'IRASEC, l'Institut de Recherche sur l'Asie du Sud-Est Contemporaine, Isabelle Dubuis, coordinatrice de l'association Info Birmanie. À lire absolument pour qui veut aller plus loin sur cette question, Birmanie contemporaine aux éditions Les Indes Savantes, ouvrage issu d'un programme de l'Institut de Recherche sur l'Asie du Sud-Est Contemporaine. Géopolitique a été signé Marie-France Chatin. Merci à la documentation de RFI, à Nathalie Laporte pour la réalisation, à Christophe Loisel pour la technique. Demain, Géopolitique sera consacrée aux États-Unis et aux élections de mi-mandat qui se sont tenues cette semaine, chronique d'une défaite pour Obama, mais ce ne fut pas la débâcle annoncée. À demain.